Vous écoutez, on lit pour vous.
Un réseau solidaire pour l'autisme. Un texte d'Alexis Ouellette Lapointe, journaliste indépendant. Initiative de Rosa del Carmen Valencia, qui Kenya défend les droits des personnes autistes. Grâce à cette organisation, un mouvement se met en place pour rassembler les familles et lutter contre les préjugés sur l'autisme à Ouachaca. Nous voulons que l'autisme soit reconnu, qu'il y ait des ressources et des services adaptés à Ouachaca. Chaque samedi, Rosa del Carmen Valencia et son fils vendent des textiles de l'isthme de Tehuantepec au marché Manos Mágicas, mains magiques. L'autisme englobe un très large éventail de personnalités. Elle indique qu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un trait dynamique qui concerne les perceptions et la socialisation. Alors, l'autisme doit être pris en compte d'une manière adéquate. Une lutte personnelle et collective. Après avoir été confrontée à un labyrinthe bureaucratique pour défendre son fils, Rosa del Carmen Valencia a créé Kikenia. J'ai été cognée à la porte des ministères et de différents organismes publics, mais je n'ai obtenu aucune aide. Elle explique que son fils a eu durant des années un accès très difficile à l'éducation et qu'il s'agit encore d'une lutte essentielle pour sa famille. Il n'était pas à sa place à l'école régulière, ni dans les classes d'adaptation scolaire du système public. Son fils a ensuite obtenu un diagnostic d'autisme à Mexico. « Nous avons besoin de soutien ». Et avec l'association, nous nous donnons un espace de solidarité. Si Kikenia défend publiquement les droits des enfants vivant avec l'autisme, l'association favorise aussi leur éducation et leur intégration sociale grâce à divers ateliers. Également, elle fournit des locaux pour offrir des cours de niveau primaire et secondaire. Cependant, Rosa dit qu'il demeure difficile d'avoir accès à des enseignants et des enseignantes. Il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire dans le milieu scolaire à Ouachaca.
Porter le même nom qu'une célébrité, pour le meilleur et pour le pire. Un texte de Jean-Louis Bordelot et Mathieu Carbas paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir. Il y a Véronique Cloutier, l'ancienne animatrice de La Fureur, et Véronique Cloutier, la fan de La Fureur. Pour cette dernière, porter le même nom que la Véro la plus célèbre du Québec n'est pas trop difficile. Pour d'autres, en revanche, s'appeler comme une personnalité publique peut parfois s'avérer hasardeux, surtout lorsqu'on cherche soi-même à être dans la lumière. Véronique Cloutier dépeint son célèbre homonyme en riant. « C'est un beau nom, un bel homonyme à avoir, » dit-elle. « Ce qui tombe bien, c'est qu'elle est très appréciée. » La Véronique Cloutier à laquelle nous avons parlé est de 5 ans la cadette de l'autre. Le hasard les a liés car les deux sont tout bonnement nés à une époque où ce prénom était très populaire. Elle bénéficie néanmoins d'un certain anonymat puisqu'elle travaille en classe d'accueil pour de nouveaux arrivants qui ignorent tout de l'autre Véronique Cloutier. Elle ne peut toutefois rester incognito très longtemps. On attend souvent quelqu'un d'autre lorsque la professeure fait une première apparition. Je n'ai pas l'opportunité de dire « Tu sais, ce n'est pas la vedette, je suis juste enseignante, je n'ai pas le même compte de banque. » Quand j'arrive, tout le monde se tourne, me regarde, puis là, je ressens comme une sorte de déception. Parce que porter le nom d'une personnalité publique comporte plusieurs inconvénients. Dur de laisser sa marque quand un homonyme plane plus haut dans les résultats d'un moteur de recherche. C'est le cas d'une Véronique Cloutier, spécialiste des champignons et tout particulièrement des truffes. Ces champignons souterrains encore peu connus au Québec passent d'autant plus sous le radar que le profil de cette experte reste sur Internet dans l'ombre de l'animatrice Véronique Cloutier. De personne à personne, ça ne change rien. Ils savent bien qu'on n'est pas la même, précise-t-elle. Mais pour me trouver, Pour trouver mon site Internet, le seul moyen, c'est d'écrire Véronique Cloutier-Champignon. Puis même là, maintenant, elle a des recettes avec des champignons. Elle a réussi à rentrer dans mon créneau. Jusqu'à devoir changer de nom. Bien que ça puisse donner lieu à des situations comiques, avoir un homonyme connu pèse parfois sur son identité au point où il peut devenir libérateur de changer de nom. C'est le cas de Mario Lemieux qui s'est trouvé un pseudonyme, Mario Francis, quand il a commencé à publier des romans fantastiques. Il aurait bien pu signer Mario J. Lemieux, mais c'était peine perdue, pense-t-il. Mon éditeur me disait de garder mon vrai nom. Mais non, je ne voulais pas de confusion. Si je m'appelais Mario Lemieux, on m'aurait questionné sur l'autre. Au fil de sa prolifique carrière, comptant une vingtaine de livres, il lui est arrivé d'écrire sur le hockey. Une exception aurait pu se glisser sur la page couverture, où il aurait retrouvé son vrai nom. Mais Mario Lemieux a finalement décidé de conserver son nom de plume. Mis à part l'écriture, il sait parfois apprécier son vrai nom. Quand il était une mégastar et qu'on parlait de l'extraordinaire Mario Lemieux à la radio, ça flattait mon égo. J'imaginais qu'il parlait de moi. Les yeux s'écarquillent chaque fois qu'il va voter et ça permet d'engager une conversation, ajoute-t-il. Ce n'est pas un nom banal, et puis les places de restaurant se réservent toujours avec une facilité déconcertante. C'est un peu toujours la même chose qui arrive. Ils te regardent et tu le vois qu'ils se retiennent. Ils se disent qu'on doit l'entendre souvent. Étrange coïncidence, sa conjointe a eu aussi des problèmes avec son propre nom. Elle portait en effet les mêmes prénoms, noms de famille et dates de naissance qu'une personne condamnée pour avoir conduit en état d'ébriété. Les autorités ont mis des mois avant de lui délivrer son permis de conduire. Comme quoi, il n'y a pas que les cas d'homonymie avec une personne célèbre qui peuvent devenir embarrassants. Un Guy Lafleur qui joue au baseball. La meilleure place du restaurant, Guy Lafleur l'a souvent eue, lui aussi. Ce Guy Lafleur est originaire de Salaberry de Valleyfield et non de Turceau. Cette fois, la coïncidence ne tient pas du hasard. Mon nom résulte d'une gageure. Ma mère ne voulait pas que je porte ce nom. Elle a posé quelques conditions à mon père. Si Montréal gagnait la coupe et que Lafleur comptait un but en finale, je m'appelais Guy. Si mon père avait perdu, on m'aurait appelé Stanley, comme la coupe, raconte-t-il avec un sourire. Je suis content que le Canadien ait gagné. Qui plus est, il allait à l'école avec un Michel Goulet. Le duo faisait tourner les têtes. On jouait dans la même ligue. À ce moment-là, les Nordiques étaient à leur plus haut point. Le sport a collé à la peau de ce Guy Lafleur durant longtemps. Son sport à lui, par contre, c'était le baseball. Approché par les Expos de Montréal pour rejoindre leur club-école, il n'a jamais atteint les ligues majeures. Son passage a tout de même attiré l'attention. Lorsqu'on appelait Guy Lafleur au marbre dans un tournoi de baseball, on entendait les murmures dans les estrades. Malgré l'inévitable comparaison avec le démon blond, porter le même nom que lui était positif, assure-t-il. Dans mon cas, ça a été bénéfique, parce qu'en étant très timide quand j'étais jeune, ça a attiré des gens vers moi. Des homonymes dans le sport, on en compte une multitude, comme Louis Garneau, journaliste à Sept-Îles. Quand Louis Garneau est devenu champion canadien en cyclisme, il n'a pas vraiment porté attention au fait d'avoir un double connu. J'arrivais à dépasser le peloton et à faire mon nom. Mais le 4 décembre 1984, quand Louis Garneau a confirmé qu'il prenait sa retraite pour se consacrer à son entreprise d'articles de sport et que son nom allait se retrouver un peu partout, l'autre Louis Garneau a senti qu'il perdait une partie de son identité. « J'ai vu le filon », plaisante-t-il. « J'ai trouvé ça amusant et c'est devenu un running gag. » C'était, porter le même nom qu'une célébrité, pour le meilleur et pour le pire, un texte de Jean-Louis Bordelot et Mathieu Carbas paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir.
Le cycle des microplastiques, en un coup d'œil. Un texte de Chloé Bourquin paru le 15 août 2025 dans La Presse. La négociation internationale pour élaborer un traité sur la pollution plastique s'est dirigée vers un échec. Des pays pétroliers refusent toute contrainte, alors que d'autres veulent nettoyer la planète du plastique qui commence à la gangréner et affecte la santé humaine. Fragmentation des plastiques. Une bouteille ou un sac de plastique se dégrade dans l'environnement sous l'action combinée des ultraviolets, de la chaleur, de micro-organismes et du temps. Cela génère ainsi, peu à peu, des particules de plastique de plus en plus petites. Les microplastiques contaminent l'eau des océans, des rivières et des nappes phréatiques, ainsi que les sols et les terres agricoles. Les poissons, mollusques et crustacés y sont exposés directement et en s'alimentant des plus petits organismes, zooplancton, phytoplancton, qui sont eux-mêmes contaminés. Les plantes absorbent les microplastiques par leurs racines. Le bétail s'en nourrit et les produits alimentaires qu'ils génèrent, viande, lait, œufs, se retrouvent eux aussi contaminés. Chaque stade de transformation industrielle de la nourriture jusqu'à son emballage peut contribuer à augmenter la quantité de microplastiques qu'elle contient. Dans notre organisme, en nous alimentant, nous absorbons nous-mêmes les microplastiques accumulés dans les plantes, les animaux et l'eau potable. Nous en stockons une partie dans notre organisme et en rejetons une autre en allant aux toilettes. Expansion cyclique. Une partie des microplastiques que nous avions absorbés se retrouve dans les boues d'épuration. On utilise ces boues pour fertiliser les champs qui se retrouvent ainsi de plus en plus contaminés par les microplastiques. C'était Le cycle des microplastiques en un coup d'œil, un texte de Chloé Bourquin paru le 15 août 2025 dans La Presse.
Quelle devrait être la durée de vie d'une laveuse? Un texte de Valérie Simard, paru le 31 août 2025 dans La Presse. Combien de temps devrait durer une laveuse, une cuisinière, un ordinateur portable? Le gouvernement du Québec vient d'établir des durées de garantie de fonctionnement pour différents biens, dans le cadre de sa loi sur la durabilité et la réparabilité. Mais ces périodes sont trop courtes, selon des organismes de défense de l'environnement ou des consommateurs. Que propose le gouvernement? Actuellement, la loi prévoit qu'un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. C'est la garantie légale. En cas de litige, il revient au tribunal de définir cette durée raisonnable. Le gouvernement vient maintenant préciser la durée de la garantie de bon fonctionnement, ce qui facilitera les démarches des consommateurs. Cela signifie que si un mauvais fonctionnement de l'appareil est constaté durant cette période, le consommateur pourra s'adresser aux fabricants et ou aux commerçants qui seront tenus de réparer le bien gratuitement. Si votre appareil se brise une fois la période de garantie de bon fonctionnement terminée, vous pourrez toujours faire valoir la garantie légale. Les normes de durée de vie sont précisées dans le projet de règlement lié à la loi sur la protection du consommateur à l'article 38.1, qui entrera en vigueur en octobre 2026. 6 ans pour une cuisinière, 3 pour un ordinateur, est-ce suffisant? pas aux yeux de l'organisme Équiterre, qui a profité de la période de consultation publique, ouverte jusqu'à dimanche, pour faire valoir sa position. Selon un sondage mené par l'organisme en 2021, les consommateurs québécois s'attendent à des durées de vie beaucoup plus longues, soit en moyenne 13,2 ans dans le cas des gros électroménagers et 7,2 ans pour les produits électroniques. Le principe de la garantie de bon fonctionnement est très bon, mais avec ces durées très courtes, les gens vont quand même devoir se tourner vers les petites créances, déplore en entrevue Julie-Christine Denoncourt, analyste en réduction à la source chez Équiterre. Elle craint que les consommateurs achètent un nouvel appareil plutôt que de se lancer dans des démarches judiciaires. Équiterre souligne aussi que ces périodes de garantie sont bien moins longues que les durées raisonnables déterminées par certains jugements de la Cour des petites créances, un avis partagé par Option consommateur. On a un peu l'impression que le gouvernement a coupé la poire en deux, estime Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Option consommateur. Il précise toutefois que dans bien des cas, les problèmes rencontrés par les consommateurs surviennent pendant les premières années d'utilisation. Dans ces circonstances, ça peut donner un coup de pouce. Mais ce sera moins utile pour les consommateurs qui valorisent vraiment la durabilité des biens, note-t-il. Le gouvernement soutient de son côté avoir tenu compte de la jurisprudence, mais également de la durée des garanties de base et prolongées offertes par les commerçants, de la durée de vie attendue des biens dans d'autres territoires et de différents avis. Par courriel, le cabinet du ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, a précisé que la garantie de bon fonctionnement s'ajoutait à la garantie légale et que les commerçants sont tenus d'en informer leurs clients. Qu'ont dit les juges des petites créances? En 2018, pour une cuisinière payée 2 000 $ et brisée après 5 ans, le juge estimait que, selon la jurisprudence, ce type d'appareil a une espérance de vie de 12 à 15 ans. Pour un réfrigérateur, des jugements rendus en 2021 et 2022 font état d'une durée de fonctionnement variant entre 7 et 17 ans selon la jurisprudence. Dans un jugement de 2018, le détaillant et le distributeur d'une thermopompe ont admis que la durée de vie minimale d'un tel bien, selon un usage normal, est de 12 à 18 ans. Les durées raisonnables moyennes sont de 12,9 ans pour un réfrigérateur, de 9,7 ans pour une machine à laver et de 9,9 ans pour un téléviseur, selon des jugements rendus par la Cour des petites créances entre 2011 et 2021. C'est 2 fois plus que ce qui est établi dans le projet de règlement. Ces données viennent d'une analyse réalisée par un professeur de la faculté de droit de l'Université McGill et son équipe. Qu'en est-il des appareils électroniques? Les juges attribuent généralement des durées de vie raisonnables moins longues aux appareils électroniques qu'aux appareils électroménagers, souligne Alexandre Plourde. En 2022, la représentante du fabricant d'un ordinateur qui ne s'allumait plus après 21 mois a déclaré au tribunal que la durée utile de l'ordinateur peut varier entre 4 et 5 ans. Ce qu'on constate généralement en matière de durée de vie moyenne d'un ordinateur portable, c'est que les gens vont les garder entre 5 et 7 ans, observe Jean-Sébastien Bigras, coordonnateur des ventes et des services chez Insertech. Souvent, ce n'est pas à cause d'un bris que les ordinateurs sont mis au rancard. Ils fonctionnent encore. mais le client souhaite obtenir un appareil plus puissant ou capable de prendre en charge les mises à jour logicielles. M. Bigras remet en question le regroupement des produits électroniques dans une même catégorie. Les tablettes, vu la conception, ne sont pas des appareils conçus pour durer très longtemps. Une garantie de 3 ans, ça me semble même beaucoup, observe-t-il. Qu'en est-il ailleurs dans le monde? Le modèle québécois est plutôt unique. Ailleurs, on voit principalement des garanties légales pour lesquelles, dans certains cas, une durée a été fixée. Par exemple, dans la plupart des pays européens, la durée de la garantie légale de conformité est d'un minimum de 2 ans, mais certains pays vont plus loin. 3 ans en Suède, 5 ans en Islande et en Norvège. C'était « Quelle devrait être la durée de vie d'une laveuse ?» un texte de Valérie Simard, paru le 31 août 2025 dans la presse.
Les États-Unis se retirent de nouveau de l'UNESCO. Un texte de Célia Lebure et Simon Valmarie de l'agence France Presse, paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir. Les États-Unis ont annoncé mardi 22 juillet 2025 se retirer une nouvelle fois de l'UNESCO, estimant que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture faisait preuve de parti pris contre Israël et promeut des causes clivantes. En 2018, Donald Trump avait déjà claqué la porte de cette institution en invoquant des billets anti-israéliens. Les États-Unis l'avaient réintégré en 2023 sous Joe Biden. La directrice de l'UNESCO, la Française Audrey Azoulay, a dit « regretter profondément cette décision qui sera effective fin 2026, même si elle était attendue. L'UNESCO s'y était préparée et est relativement protégée sur le plan budgétaire », a-t-elle estimé, soulignant que la contribution américaine de 75 millions de dollars annuels ne représente que 8% du budget total de l'organisation. Pour Washington, la poursuite de la participation des États-Unis à l'UNESCO n'est pas dans l'intérêt national, a déclaré dans un communiqué la porte-parole du département d'État Tammy Bruce. L'UNESCO s'emploie à promouvoir des causes sociales et culturelles clivantes et défend une feuille de route idéologique et mondialiste pour le développement international en contradiction avec notre politique étrangère « America first », l'Amérique d'abord, a-t-elle expliqué. Elle a également jugé que la décision de l'UNESCO d'intégrer l'État de Palestine en 2011 est hautement problématique, contraire à la politique des États-Unis, y a contribué à la prolifération de discours hostiles à Israël au sein de l'organisation. « Je réfute absolument le fait qu'il y ait des billets anti-israéliens ou antisémites au sein de l'organisation », a répondu Mme Azoulay à l'AFP, soulignant les efforts menés par l'UNESCO, notamment pour l'enseignement de la Shoah et la lutte contre l'antisémitisme. 3 départs en 40 ans. Le président français Emmanuel Macron a assuré l'UNESCO, dont le siège est à Paris, de son soutien indéfectible. Le retrait des États-Unis ne fera pas faiblir notre engagement aux côtés de celles et ceux qui portent ce combat, a-t-il dit sur le réseau X. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a, lui, salué une mesure nécessaire destinée à promouvoir la justice et le droit d'Israël à un traitement équitable au sein du système des Nations Unies, un droit qui a souvent été bafoué en raison de la politisation de cette instance. C'est la 3e fois que Washington quitte l'UNESCO en l'espace de 40 ans. En octobre 2017, durant son premier mandat, Donald Trump avait annoncé retirer son pays en dénonçant les partis pris anti-israéliens persistants de l'institution. Ce retrait, suivi de celui d'Israël, était devenu effectif en décembre 2018. L'UNESCO avait notamment provoqué la fureur israélienne en juillet 2017 en inscrivant la vieille ville d'Hébron sur la liste du patrimoine mondial en danger et en caractérisant Hébron, en Cisjordanie occupée, de ville islamique, alors que les Juifs, dont quelques centaines y vivent aujourd'hui retranchés au milieu de 200 000 Palestiniens, y revendiquent une présence de 4 000 ans. Devenue directrice générale de l'UNESCO en novembre 2017, Audrey Azoulay avait obtenu du gouvernement Biden, qui a succédé à Trump en 2021, un retour des États-Unis qui s'étaient engagés à rembourser, selon un paiement échelonné, leurs arriérés de paiement depuis 2011, d'un montant de 619 millions de dollars. Après l'admission de la Palestine au sein de l'UNESCO cette année-là, Washington avait cessé tout financement en vertu d'une loi américaine interdisant de financer une organisation dont l'État palestinien est membre. En 1984, Ronald Reagan avait lui aussi retiré la participation américaine, invoquant l'inutilité supposée et les débordements budgétaires de l'organisation, finalement réintégrée en 2003. La porte reste ouverte. S'ils quittent l'organisation cadre de l'UNESCO, les États-Unis resteront membres du Comité du patrimoine mondial qui vote pour désigner les sites protégés par l'organisation, a précisé une source proche du dossier. Habitué des revirements de Washington, l'UNESCO s'est employé ces dernières années à réduire sa dépendance au financement américain en augmentant notamment la part des contributions volontaires qui ont doublé sous Audrey Azoulay. Cette décision va néanmoins affecter nos activités dans les années à venir ou nous obliger à rechercher d'autres sources de financement, ajoute la source proche du dossier. L'annonce du président Trump ne prendra effet qu'à la fin de l'année 2026. Il reste tout ce temps pour éventuellement reconsidérer cette position, a souligné à l'AFP Mme Azoulay, qui quittera son poste en novembre. La porte reste ouverte, on a vu dans l'histoire qu'il y a eu des départs, mais qu'il y a eu aussi des retours. C'était « Les États-Unis se retirent de nouveau de l'UNESCO », un texte de Célia Le Bur et Simon Valmarie de l'agence France-Presse paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir.